que la chose se déroulerait dans des basses pressions académiques et nous espérions qu'elle se déroulerait dans de hautes pressions intellectuelles. La question scientifique ne sera pas, de la scientificité ne sera pas abordée en tant que telle. Le problème de la rigueur méthodologique est pour nous plus important que les étiquettes de scientificité autoproclamée. Sur un thème comme ça, corpus littéraire, il n'y a pas véritablement de collectivité académique instituée d'ailleurs. Il y a des gens qui sont épars dans diverses diasporas. Nous sommes aujourd'hui entre les journées de la science et la semaine du goût, et on retrouvera cette dualité entre les sciences et les lettres ici et là. Alors, dans les disciplines qui sont concernées, il y a évidemment la philologie numérique. On a fait il y a quelques années ici même d'ailleurs une journée sur ce thème. Qui est un domaine tout à fait passionnant, puisque, bien entendu, dans ces matières, les données, c'est ce qu'on se donne. Et la manière dont on s'est donné les données textuelles va contraindre, bien entendu, leur interprétation et leur usage. D'ailleurs, d'une certaine façon, tout codage est déjà une préactivation d'un mode d'interprétation. Il y a aussi, bien entendu, l'informatique, mais l'informatique ne sera pas abordée non plus en tant que telle. D'ailleurs, elle va peut-être faire bientôt comme l'électricité, elle va disparaître dans la vie quotidienne et on n'y pensera plus. En tout cas, la perspective qui était celle de l'intelligence artificielle il y a quelques années de simuler la compréhension ne sera pas abordée, j'imagine. Je pense que la question d'aider à l'interprétation est peut-être plus réaliste et non moins difficile. Quant à la linguistique, elle a connu, vous le savez, un tournant, notamment la linguistique computationnelle. Les approches exclusivement symboliques ont laissé place à des approches quantitatives. Depuis 5 ou 6 ans, il y a un essor des méthodes quantitatives et la guerre est finie entre les symboliques et les quantitatifs. Du moins, on peut le penser. Et donc, dans cette heureuse situation d'après-coup, où plus personne n'a périmé plus personne, il y a une ouverture générale à des thèmes qui avaient été agités dans les années 60, notamment en lexicométrie, etc. Dans les études littéraires, il y a du moins au niveau du secondaire une agitation intellectuelle sur ces thèmes, notamment parce que, vous savez, les institutions ont fait des efforts réels pour promouvoir l'utilisation de textes numériques, ce qui pose évidemment des problèmes de formation, d'écriture de manuels, de reconsidération elle-même de la façon dont on considère la littérature, puisqu'il faut d'abord admettre que la littérature est un art du langage, ce qui n'est pas du tout évident pour beaucoup de collègues, que cette l'art du langage peut être étudié en sortant de la conception monumentale qui privilégie presque uniquement certains auteurs, certaines grandes œuvres. Et donc, il faut, dès qu'on a un corpus, on entre dans une perspective sérielle Et on n'est pas dans la sociologie, mais dans la société de texte, selon une expression de Canellos. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, conduit à peut-être une métanoïa. Enfin, du moins, par ailleurs, on est obligé de sortir du discours non critique et d'essayer de réunir la critique philologique qui préside au recueil des corpus et à leur interprétation, et la critique littéraire, ce qui n'est évidemment pas simple parce que elles ont depuis longtemps divergé. Il n'y a pas évidemment que les études littéraires, il y a aussi la didactique elle-même qui est concernée. Là-dessus, la dernière session proposera des interventions, mais il ne s'agit pas évidemment de se substituer aux didacticiens. Il s'agit d'entamer un dialogue avec eux. C'est à eux de s'emparer de ce qui se fait dans ces domaines, et non pas aux chercheurs en linguistique de leur proposer des choses clés en main. Ce qui serait tout à fait illusoire. Bien entendu, il y a d'autres disciplines qui sont concernées, y compris par les corpus littéraires, la sociologie, l'histoire. Et là, on voit voisiner, chose inouïe en France, des disciplines sans concours et des disciplines avec concours. Vous savez qu'en France, on est dans une ambiance toujours très hiérarchique, la tête et les jambes, les durs et les mous, les littéraires, les scientifiques, le théorique et l'appliqué, les lettres et les sciences, tout ça est toujours hiérarchisé. Bon, en fait, le problème, c'est plutôt de caractériser les spécificités et de les respecter. Ce n'est pas parce qu'on aura étudié un texte au sein d'un corpus qu'on aura abandonné. Enfin, la perspective du corpus ne conduit pas nécessairement à abandonner l'objectif de caractérisation et d'individualisation qui est propre aux sciences de la culture. Au contraire, c'est précisément sur le fond d'un corpus qu'un texte peut se singulariser et à la limite trouver son bon corpus et en même temps favoriser son interprétation. Alors, je ne veux pas m'étendre sur ces questions. Je signale simplement un changement dû à en fait à un deuil de l'horaire prévu. Ou du moins de la programmation prévue. André Salem fera son exposé demain, à 10 h, et non pas ce matin, comme nous l'avions annoncé dans les dernières circulaires. Et c'est donc Étienne Brunet qui va commencer, comme il était d'ailleurs annoncé dans les premières circulaires au mois de juin de ce colloque. Nous avons prévu des temps d'intervention relativement longs, de l'ordre d'une heure, discussions comprises. S'il y a des questions qui ne peuvent pas être réglées dans ces discussions, elles pourront être abordées dans la table ronde finale qui se tiendra demain à 16 h, tout simplement. Alors, on a essayé de ne pas trop charger les journées et de favoriser le temps d'intervention. Je pense que personne ne s'opposera à ce que, s'il y a des questions qui se posent, des questions de compréhension qui se posent dans le cours même de l'exposé, vous puissiez intervenir ou demander des clarifications en gardant les thèmes de discussion pour la fin. Voilà, je laisse donc la parole avec plaisir à Étienne Brunet, qui est à la fois notre grand ancien et notre jeune vétéran, et qui est l'auteur d'un logiciel bien connu, dont je vais faire circuler un exemplaire. Il s'agit d'hyperbase. Et depuis quelques années, Hyperbase a connu de grands développements dont nous allons voir par son auteur toute l'étendue.